le personnage d'État des hauteurs où s'exerce son pouvoir, protégé par tout l'appareil des tribunaux, de la police et des armées, ne voit pas l'homme dans le condamné qu'il livre à la prison ou à la mort. Il réduit une opposition. Marigny se souvenait du malaise qu'il avait éprouvé tandis que les Templiers grillaient sur l'îlot juif, en comprenant qu'il ne s'agissait plus alors d'abstraites puissances hostiles, mais d'être de chair, de semblable. Un bref moment cette nuit-là, et se reprochant ce mouvement d'âme comme une faiblesse, il s'était senti solidaire des suppliciés. Il se retrouvait tel au fond de son cachot. « Vraiment, nous avons tous été maudits pour ce que nous avons fait là. » Et puis, une nouvelle fois, Marigny avait été conduit à Vincennes et pour y assister au plus sinistre, au plus abject étalage de haine et de bassesse. Comme si toutes les accusations portées contre lui ne suffisaient pas, comme s'il fallait à tout prix anéantir les doutes dans les consciences du royaume, on se complut à le charger de crimes extravagants certifiés par un stupéfiant défilé de faux témoins. Monseigneur de Valois se faisait gloire d'avoir découvert un vaste complot de sorcellerie, inspiré bien sûr par Enguerrand. Madame de Marigny et sa sœur Madame de Chanteloup avaient pratiqué des envoûtements criminels sur des poupées de cire figurant le roi, le comte de Valois lui-même et le comte de Saint-Paul. Ce fut du moins ce qu'affirmèrent des individus sortis de la rue des Bourdonnais, où ils tenaient officine de magie avec la tolérance de la police. On traîna devant le tribunal royal une boiteuse, d'évidence créature du diable, et un certain Pavio, récemment condamné pour une affaire similaire. Ils ne firent aucune difficulté pour se déclarer complices de Madame de Marigny, mais montrèrent un étonnement douloureux quand leur fut confirmée la sentence qui les envoyait au bûcher. Les faux témoins eux-mêmes dans ce procès étaient trompés. Enfin, l'on annonça le trépas de Marguerite de Bourgogne, et dans le grand émoi causé par cette nouvelle, on donna lecture de la lettre que la reine, la veille de mourir, avait adressée à son époux. « On l'a tué !» s'écria Marigny, pour qui toute la machination alors s'éclaira. Mais les sergents qui l'encadraient l'avaient obligé à se taire, cependant que Jean d'Asnières ajoutait ce nouvel élément à son réquisitoire. En vain, les jours précédents, le roi d'Angleterre était-il de nouveau intervenu par message auprès de son beau-frère de France, l'adjurant d'épargner Enguerrand. En vain, Louis de Marigny s'était-il jeté aux pieds du Hutin, son parrain, le suppliant d'accorder grâce et justice. Louis X, dès qu'on prononçait le nom de Marigny, ne répondait que par ce seul mot « J'ai levé ma main de dessus lui ». Il le répéta publiquement une dernière fois à Vincennes. Enguerrand s'était alors entendu condamné à la pendaison, tandis que sa femme serait emprisonnée et tous leurs biens confisqués. Mais Valois continuait de s'agiter. Il ne connaîtrait pas de répit aussi longtemps qu'il n'aurait pas vu Enguerrand se balancer au bout d'une corde. Et pour brouiller toute tentative éventuelle d'évasion, il avait assigné à son ennemi une troisième prison, celle du Châtelet. C'était donc d'un cachot du Châtelet que Marigny, dans la nuit du 30 avril 1315, contemplait le ciel à travers un soupirail. Il n'avait pas peur de la mort, du moins s'entraînait-il à l'acceptation de l'inévitable. Mais l'idée de la malédiction obsédait sa pensée. Car l'iniquité était si totale qu'il lui fallait y voir à travers et par-dessus la subite rage des hommes le signe manifeste d'une plus haute volonté. Était-ce la colère divine, vraiment, qui s'exprimait par la bouche du grand maître? Pourquoi avons-nous tous été maudits, et ceux-même qui n'étaient pas nommés simplement d'avoir été présents? Pourtant, nous n'avions agi que pour le bien du royaume, la grandeur de l'Église et la pureté de la foi. Qu'est-ce donc qui a provoqué cet acharnement du ciel contre chacun de nous?